Bonjour bien-aimés, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour partager la parole du Seigneur et nous lisons dans Ésaïe 55 au verset 8 à 9. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Le Seigneur nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. » Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà ce que Dieu dit. Dieu dit que ses voix à lui, ses pensées à lui, sa façon de fonctionner n'est pas similaire, n'est pas identique à la façon humaine de fonctionner. Parce que l'humain, dans son fonctionnement, il est limité ne serait-ce que par le temps. Il est limité ne serait-ce que par le pouvoir. C'est-à-dire que l'homme, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais Dieu, lui, il est éternel. C'est écrit, hein, c'est lui qui dit verset 8, « Car mes pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Quand Dieu rajoute « dit l'Éternel », en fait, il dit qui il est. Il dit « Moi, je suis éternel. » Et puisque je suis éternel, ma façon d'agir ne cadre pas avec la façon humaine. Et il donne une illustration en disant « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont aussi au-dessus de vos pensées. » Dieu compare en quelque sorte ses pensées au ciel qui est au-dessus de nous. Comme le ciel est au-dessus de nous, nous dépasse, bah Dieu dit que ses pensées sont aussi au-dessus de nous. Et bien aimé, nous devons nous habituer à cela, à ce fonctionnement-là. En tant qu'humain, nous voulons comprendre les choses, nous voulons gérer les choses, nous voulons expliquer les choses, nous voulons démontrer les choses, mais nous serons toujours confrontés à cette réalité, c'est qu'il y a des choses que Dieu va faire qui vont toujours nous dépasser. On ne comprendra pas, on se posera des questions, on cherchera à comprendre, mais pourquoi Dieu a fait de cette manière? Mais pourquoi mon passé a été de cette manière? Mais pourquoi Dieu a permis cette situation? Mais pourquoi ceci? Alors, on va se poser toutes sortes de questions. Mais le problème, c'est que comme les pensées de Dieu sont au-dessus, donc on peut se poser des questions et on n'aura pas les réponses forcément. Les réponses se trouvent en Dieu. Alors, nous lisons notre passage principal d'aujourd'hui. C'est dans 2 Samuel, c'est un seul verset. 2 Samuel, au chapitre 22, au verset 31. 2 Samuel, c'est notre passage principal. 2 Samuel 22, 31. Donc c'est un verset, mais nous allons prendre la première partie de ce verset. Voilà ce que le Seigneur a dit. C'est David, hein, c'est le cantique de David. David crie à l'Éternel. Et voilà ce qu'il dit au verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Alors nous lisons, comme on a dit, on reste sur la première phrase. Les voies de Dieu sont parfaites. C'est ça le thème de notre partage aujourd'hui. Les voies de Dieu, les pensées de Dieu, l'intelligence de Dieu, la façon de faire de Dieu est parfaite. Et ici on nous dit, les voies de Dieu sont parfaites. Le premier passage, nous avons dit que les pensées de Dieu, les voies de Dieu ne sont pas semblables, identiques à celles des humains. Et ici, on nous dit, non seulement elles ne sont pas identiques, mais les voies de Dieu, on nous donne un nouvel élément, on nous dit que les voies de Dieu sont parfaites. Quelque chose qui est parfait, c'est quelque chose qui n'a pas de défaut. Quelque chose qui est parfait, c'est quelque chose dont on ne peut pas faire de reproches. Quelque chose qui est parfait, c'est quelque chose qui n'a pas d'erreur. C'est-à-dire que, et dans le dictionnaire, la toute première définition du mot parfait, c'est écrit « ce qui est élevé, ce qui est au-dessus, ce qui est incomparable, ce qui est en hauteur ». C'est ça la véritable définition de parfait. Et David a compris cela, il dit « les voies de Dieu sont parfaites, il n'y a pas de défaut dans le fonctionnement de Dieu ». Dans la façon de faire de Dieu, dans l'action de Dieu, même si nous, en tant qu'humains, on peut voir des choses qui ne nous arrange pas. Même si nous, humains, nous pouvons voir des choses qui ne nous conviennent pas, on nous dit que les voies de Dieu sont parfaites, bien-aimés. C'est ça notre partage aujourd'hui. Les voies de Dieu sont parfaites. Et mon premier point, c'est que Dieu est bon. C'est ça le premier point. Dieu est bon et il ne fait pas d'erreur. Je me rappelle une histoire, je pense que certains ont vu cette histoire-là sur les réseaux sociaux, WhatsApp. En tout cas, c'est une histoire, moi, qui m'a touché. Et c'est ça qui a inspiré le partage d'aujourd'hui, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec le coronavirus, avec des gens qui tombent malades, certains même qui meurent. Et on se pose des questions, on se dit, mais Dieu, où est-il? Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Mais Dieu, comment il peut laisser même certains chrétiens être frappés par cette maladie, parfois même mourir? Alors on se pose toutes sortes de questions. Alors, cette histoire-là, c'est un roi, peut-être que certains vont s'en souvenir, un roi avait un esclave, un serviteur, fidèle, mais un esclave en même temps. Alors cet esclave-là passait son temps à dire au roi, à rappeler au roi, Sa Majesté, Dieu est bon et il ne fait pas d'erreur. Alors ça agaçait le roi, ça l'énervait. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais parce que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Alors un jour, le roi prend son esclave, son serviteur, ils vont faire de la chasse. Et arrivé à la chasse, il tue un lion. Mais avant de tuer le lion saute sur le roi et lui arrache un doigt. Et ils réussissent à abattre ce lion-là. Alors le roi est furieux. Et le serviteur qui le soigne, vous savez, imaginez perdre un doigt arraché par un animal sauvage. Vous imaginez un peu la douleur. Et le serviteur soigne son roi. Il lui dit, écoute roi, sache que Dieu est bon et il ne fait pas d'erreur. Alors le roi se met en colère. Il dit, mais voyons, pour qui tu te prends? Regarde la situation dans laquelle je suis. Et tu me dis encore ça, mais tu me provoques. C'est un manque de respect. Qu'est-ce que ce roi l'a fait? Il dépêche cet homme en prison. Il le met en prison. Il le fait enfermer. Et en prison, cet homme qui croit en Dieu, dit, il continue à dire, Dieu est bon et il ne fait pas d'erreur. Et un jour, le roi se décide de retourner encore à la chasse. Il va à la chasse et pendant son périple à la chasse, il tombe sur une tribu de personnes qui l'attrapent et le prennent comme prisonnier. Et cette tribu-là avait l'habitude de faire des sacrifices humains. Alors, le jour du sacrifice, comme ils avaient le roi, en plus, quelle prise, ils ont un roi comme victime, comme sacrifice, mais quelle belle prise. Alors, au moment où ils veulent sacrifier le roi, ils inspectent et ils se rendent compte qu'il y a un problème. Lequel? Quel est le problème? C'est que le roi manque un doigt. Et ces gens-là ne font pas de sacrifice incomplet. Ils se disent, mais non, on ne peut pas le sacrifier. On peut pas le tuer parce que il manque un doigt. Le sacrifice serait incomplet. Or, nous ne faisons pas de sacrifice incomplet. Alors, ils décident de libérer le roi. Il dit, tu peux partir, on te libère. Dépêche-toi, pars. Ben, le roi n'en revient pas. Il se dit, mais ce n'est pas possible. Et bien aimé, c'est là qu'il se souvient de la phrase de son serviteur qui lui a toujours dit quoi? Dieu est bon et il ne fait pas d'erreur, bien aimé. Et ensuite, le roi qui est libéré, il court direction la prison pour aller voir son serviteur, pour le libérer, pour lui dire, mais regarde ce qui m'est arrivé, mais c'est formidable. Mais Dieu est bon, comme tu le disais, parce que j'étais sur le point de mourir. Et ces gens-là se sont rendus compte qu'il me manquait un doigt et ils m'ont pas sacrifié parce que j'étais pas complet. Donc vraiment, Dieu est bon. Ah, le serviteur lui dit, oui, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Alors, le maître, le roi, pose la question au serviteur. Il dit, mais Dieu a été bon envers moi, je suis d'accord, parce que j'ai la vie sauve. Mais toi, en quoi Dieu est bon envers toi? Parce que toi, tu étais en prison depuis tout ce temps-là. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Vous savez ce que le serviteur répond au roi? Il dit, mais mon roi, mais Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Imaginons que je sois venu avec toi. Qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient nous capturer tous les deux. Mais maintenant, se rendant compte que toi, tu avais un doigt en moins, qu'est-ce qu'ils allaient faire? C'est moi qu'ils allaient tuer. Donc Dieu est bon. C'est-à-dire que quand tu m'as mis en prison, c'est que Dieu était au contrôle. Il a permis que moi je sois en prison pour ne pas être tué ce jour-là. Bien-aimé, quand on a l'histoire, quand on a du recul sur l'histoire, ça nous fait sourire. On se dit, oh là là, mais c'est merveilleux, c'est tellement beau. Mais bien-aimé, j'ai pris cette histoire-là pour nous montrer le fonctionnement de Dieu avec nous. Il y a des moments où Dieu va faire les choses. On ne va pas toujours comprendre les tenants et les aboutissants. Il y aura parfois des malheurs. Vous vous rendez compte, cet homme-là a perdu un doigt. Ça fait mal. Mais le fait qu'il ait perdu ce doigt-là a fait qu'il ait eu la vie sauve. Le serviteur aussi en prison aurait pu aussi se plaindre. Dire, mais pourquoi? Mon chef me met en prison. Mais en étant en prison, finalement, Dieu l'a épargné de la mort, étant sacrifié par ses tribus. Et quand on a l'histoire, on sourit, on se dit oui, effectivement. Mais bien aimé, c'est ça que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Les voies de Dieu sont parfaites. On n'a pas toujours la photographie, on n'a pas toujours le recul sur l'histoire. Puisqu'on vit la chose à l'instant, on se demande, mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que? Mais pourquoi le coronavirus? Mais pourquoi tel a été infecté? Mais pourquoi tel est décédé? Mais pourquoi? On a toutes sortes de questions. Et cette histoire que je viens de raconter nous montre, bien aimé, la mathématique céleste, la pensée divine. On voit comment Dieu fait les choses. C'est ça mon premier point, bien aimé. C'est que Dieu est bon. Il ne fait pas d'erreur, il ne se trompe pas. Toi, tu peux penser que tu es peut-être une erreur de la nature. Mais sache qu'avant toi, il y en a un qui gère les choses, qui maîtrise. On se rappelle dans Matthieu 13, lorsque les serviteurs viennent voir le maître pour dire, mais maître, mais n'avons-nous pas semé du blé dans ton champ? Mais d'où vient donc qu'il y a de l'olivier parmi le blé? C'est un ennemi qui a fait cela. Et le maître dit quoi? Il dit, laissez, je suis au courant. Laissez croître ensemble. Et un jour viendra où on séparera les choses. Bien-aimé, c'est ça notre exhortation d'aujourd'hui. C'est que les voies de Dieu sont parfaites. Vous voyez l'histoire que j'ai racontée là? C'est une histoire qui m'a touché. Qui nous montre combien Dieu gère tous les détails de la vie. Parfois même pour nous faire passer. Donc, Dieu a permis que ce roi-là perde son doigt. Pour qu'un jour ils comprennent que réellement Dieu est bon. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Qu'ils soient libérés par des méchants, des sauvages. Pour que ce jour-là ils comprennent. Parce qu'à chaque fois qu'il entendait ça du serviteur, il se fâchait. Mais pourquoi tu dis ça? Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi Dieu est bon? Pourquoi? Mais un jour, il a expérimenté la bonté de Dieu. Alors, être libre, manquer un doigt, et être entier, et se faire tuer par une tribu. Bien-aimé, vous choisissez quoi? Je pense que ce roi-là, il n'y avait pas photo, comme on dit. Hein. Il n'y avait pas photo. Il préférait perdre un doigt, mais garder la vie sauve. C'est cela. Les voies de Dieu, bien-aimé, sont parfaites. Et Dieu est bon, c'est ce que David dit. Ses voies sont parfaites. Dieu sait ce qu'il fait. Et souvent, quand nous ne comprenons pas les choses, quand nous ne voyons pas pourquoi Dieu fait ceci, pourquoi Dieu fait cela, qu'est-ce qui nous arrive? Ben, il nous arrive de nous rebeller vis-à-vis de Dieu. Et c'est ça mon deuxième point. C'est que c'est pas parce que nous ne comprenons pas le fonctionnement de Dieu que nous devons nous rebeller vis-à-vis de Dieu. Non, bien-aimés. Nous ne nous rebellons pas parce que nous n'avons pas compris. Il y a beaucoup de choses dans le fonctionnement, notamment par rapport à cette crise sanitaire, tout ce qui se passe. Parfois, on a envie même de réagir humainement pour crier toutes les injustices qu'on peut voir. Mais il y a une certitude, c'est que Dieu est au contrôle. Il sait ce qu'il fait. Nous lisons Luc au chapitre 23. Luc chapitre 23, c'est l'histoire des deux brigands à la croix. Luc 23, verset 35 jusqu'au verset 43. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation pour nous? C'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras, dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Bien-aimé, cette histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de l'humanité des humains qui cherchent à accuser, à incriminer Dieu quand les choses ne vont pas dans leur direction. C'est ça notre deuxième point, bien-aimé. C'est pas parce que tu n'as pas compris les choses que tu dois te rebeller, dire c'est la faute de Dieu. Si Dieu existe, pourquoi il y a ceci? Si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres? Si Dieu existe, pourquoi il y a des méchants? Pourquoi il y a des dictatures? Je discutais avec une personne qui me dit qu'elle parlait avec une personne de la famille qui lui disait, oui, mais depuis longtemps tu me parles de Dieu, mais si Dieu existe, pourquoi il y a le coronavirus? Pourquoi les membres de famille sont frappés? Pourquoi il y a eu même des morts peut-être dans la famille? Si Dieu existe, bien aimé, c'est ça qui a inspiré aussi ce partage d'aujourd'hui. C'est que, bien aimé, nous n'avons pas de réponse à tout. On peut dire que c'est le jugement de Dieu, oui. Mais c'est ce que nous, on peut comprendre. Mais on n'a pas réponse à tout. Mais vous savez, cette personne-là qui pose la question, qui posait la question en disant, mais si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela? Aujourd'hui, cette personne-là, qui ne lisait pas la Bible autrefois, aujourd'hui, commence à lire la Bible. Bien-aimé, c'est ça la mathématique, c'est ça la pensée de Dieu. C'est-à-dire que Dieu fait des choses qui nous dépassent. Il suffit d'avoir un peu d'humilité. Regardons cet homme, le malfaiteur, le premier qui dit, « Mais si tu es le Fils de Dieu, n'es-tu pas le Christ ?» Verset 39, « Sauve-toi et sauve-nous !» Mais c'est ce que beaucoup disent. Ils ne veulent pas croire en Dieu. Mais quand il y a des problèmes, ils disent, mais si Dieu existe, pourquoi il y a des problèmes? Bien-aimés, mais soyons cohérents. Moi, ma première réponse, c'est dire que Dieu est bon. Et il ne se trompe pas. Et ma deuxième réponse, c'est dire que Dieu lui seul a les explications. Mais ce qu'il veut, c'est que le méchant vienne à la repentance, qu'il soit sauvé. C'est cela. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas dans le fonctionnement de ce monde. Il y a beaucoup de choses qui sont injustes dans le fonctionnement de ce monde. Mais ça ne change pas le fait que Dieu veuille sauver les humains. Les choses que nous voyons bien aimées nous montrent que le cœur humain est mauvais. Cette crise sanitaire que nous vivons, où on a vu, je pense que certains scientifiques, médecins, ont pu dénoncer des choses en disant que c'est une question uniquement financière des groupes pharmaceutiques qui veulent vendre des vaccins à 800, comme dernièrement ils nous ont dit qu'ils ont trouvé quelque chose peut-être qui pourrait faire l'affaire par rapport au coronavirus en 2 ou 3 injections, sachant que le traitement lui-même coûte 830 ou 900 euros. Vous vous rendez compte? Alors qu'il y a des propositions d'un traitement qui coûte 5 euros. Mais on dit non, c'est pas ça. Nous, on veut autre chose. Mais quand on voit tout ça, on voit la méchanceté du cœur humain. Et beaucoup se disent, mais si Dieu existe, il n'a qu'à faire. Mais oui, Dieu existe, Dieu est grand, Dieu est vivant. Mais il se manifeste pour ceux qui se font petits et qui acceptent. Comme l'histoire du roi que j'ai présentée là au début. Ce roi-là qui s'énervait quand on disait Dieu est bon, un jour, il a eu besoin de Dieu. Je pense que quand il était sur le point d'être sacrifié, il s'est souvenu de la phrase de son esclave, lui disant que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Peut-être a-t-il prié, on ne sait pas. L'histoire ne le dit pas. Mais en tout cas, il a compris ce jour-là, personnellement, que Dieu était bon. Mais non seulement pour lui, parce que quand il va voir l'esclave lui dit, oui, mais Dieu est bon parce que si j'étais avec toi, eh bien, moi j'aurais été sacrifié ce jour-là. Alors Dieu a permis que je sois emprisonné. C'est ça, bien-aimé. Alors acceptons de nous humilier, bien-aimé. Et cet homme, comme beaucoup autour de nous, parfois nous pose des questions. Mais toi qui prie, regarde ceci, regarde. Oui, Dieu permet ces choses pour qu'on vienne à lui. Dieu permet ces choses pour qu'on se rende compte qu'en réalité, seul Dieu est la solution. Et malheureusement, beaucoup se mettent à incriminer Dieu, comme ce brigand qui dit « N'es-tu pas le Christ ? Mais sauve-toi et sauve-nous ! Prouve maintenant que tu l'es ! Prouve maintenant !» Le Christ, c'est quoi ? C'est le loin de Dieu, le Messie, le Sauveur. Mais prouve maintenant que tu l'es ! Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu n'agit pas parce que tu veux qu'il prouve qu'il est. Non, il est Dieu. Le soleil ne va pas prouver qu'il est clair ou qu'il donne la chaleur. Non, il est tel qu'il est. Voilà. Tu peux en bénéficier ou refuser d'en bénéficier, mais il est là. C'est ça. Et Dieu ne va pas céder à un chantage comme ça. Mais Dieu veut qu'on puisse ouvrir notre intelligence pour comprendre. Comme je témoignais tout à l'heure avec cette personne qui disait, mais si Dieu existe, mais aujourd'hui cette personne commence à lire la Bible. Commence à chercher à comprendre qui est Jésus, qui est Dieu, pourquoi, bien-aimé. C'est peut-être dur hein, ce que je veux dire. Est-ce qu'il aurait fallu qu'il y ait le coronavirus pour que cette personne arrive à lire la Bible aujourd'hui? Mais bien-aimé, Dieu connaît l'homme, Dieu connaît le cœur de l'homme et il sait là où il faut appuyer. Pour briser les humains. Il sait, bien-aimé. Regardez un peu comment l'humanité entière a été immobilisée. La terre entière immobilisée. À cause d'un virus. Cela nous montre combien l'homme est fragile. Boris Johnson, le premier ministre de l'Angleterre, en soins intensifs, il a peut-être même failli y passer. Alors toi qui es simple monsieur, tout le monde, tu fais le costaud devant Dieu en disant mais imagine un premier ministre en soins intensifs. Alors ça doit nous amener, bien-aimés, à nous humilier devant Dieu, à ne pas faire le costaud. À ne pas faire le rebelle, à ne pas chercher à faire le dur, à ne pas chercher à accuser, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, quand les choses nous dépassent, quand on ne comprend pas, on cherche un bouc émissaire, on cherche le coupable, et souvent le coupable, on se tourne vers Dieu. Mais ça, je parle des païens, mais nous aussi chrétiens, il y a parfois ces situations qu'on vit, on est parfois démunis, on n'a pas de réponse devant les gens. Mais ne nous rebellons pas. Nous lisons encore une autre histoire. C'est la femme de Job qui est dépassée par la souffrance. Job, chapitre 2, versets 6 à 10. Job 2, 6 à 10. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. » Donc en parlant de Job, « Seulement, épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs !» Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien. » Et nous ne recevrons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Voilà, bien-aimé. Voilà, bien-aimé, la femme de Job. En tout cas, avant, on ne parle pas d'elle. Et je pense que c'était quelqu'un qui avait un amour pour Dieu, qui était attaché aussi à Dieu, qui aimait Dieu, qui accompagnait son mari, parce qu'on nous dit au chapitre 1er que Job faisait des sacrifices pour ses enfants, en se disant peut-être aurait-il péché contre l'Éternel. Mais un jour est arrivé où la femme de Job a craqué. Elle a dit à Job, mais quoi, regarde comment tu es, un ulcère malin que tu as. Depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante du pied. Regarde l'état dans lequel tu te trouves. Tu te grattes avec un tesson de bouteille. Quelle souffrance, mais maudit Dieu et meurs. C'est tout. Qu'est-ce que tu peux encore attendre de Dieu dans cet état-là? Bien-aimé, le thème, on a dit, c'est que les voies de Dieu sont parfaites. Mais cette perfection-là passe parfois par des chemins qui sont parfois douloureux. Mais ça ne change pas. On a dit quelque chose qui est parfait, c'est quelque chose qui est sans défaut, sans reproche, sans erreur. Tout est contrôlé au millimètre près. C'est ça Dieu. Et la femme de Job, dans la souffrance de son mari, elle dit, mais non, c'est pas possible. Mais maudit Dieu. Et meurt, et puis c'est tout. Voilà ce qui nous arrive aussi de faire, bien-aimés, lorsque nous sommes dans l'épreuve, lorsque nous sommes dans la difficulté, lorsque la souffrance est grande, lorsqu'on ne voit pas le bout du tunnel. On cherche à se rebeller même vis-à-vis de Dieu. En disant, mais pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Mais bien-aimé, là, cette histoire qu'on lit là, nous on a le recul. Comme l'histoire que j'ai racontée du roi avec l'esclave. Quand on a le recul, on se dit, on sourit, on se dit, ah oui, heureusement. Et l'histoire de Job, nous on a le recul vis-à-vis de cette histoire là, par rapport à cette histoire. Nous, nous savons que ça a été une guerre, un enjeu entre Dieu et Satan. Parce que Job n'a pas péché. Job était intègre. Et on vient de lire que malgré tout cela, il ne pécha point par ses lèvres. Mais la femme de Job n'est pas au courant que ce que son mari vit, c'est un combat de haut niveau. Elle n'est pas au courant de cela. Elle n'est pas au courant du fait que Dieu utilise son mari pour démontrer sa puissance, pour démontrer qu'il est possible d'aimer Dieu au point de tout perdre, même sa vie. Pour démontrer aux chrétiens ou aux croyants de tous les temps qu'il est possible d'être attaché à Dieu malgré tout. Bien aimé, aujourd'hui nous lisons l'histoire de Job. Ça nous fortifie. Ça nous encourage. Ça nous parle. Mais c'est ça le fonctionnement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut nous utiliser, nous. Dieu peut nous faire souffrir, nous, pour enseigner les autres. Tu es le païen, tu es le seul chrétien au travail. Parfois, les mauvaises tâches, les mauvaises missions que tout le monde ne veut pas, c'est toi qui t'y colle, c'est toi qui les prends. Parfois, les gens vont abuser, profiter. Et en ce moment-là, à un moment donné, le chrétien craque. Trop, c'est trop. Non, bien-aimé, Dieu utilise tes souffrances à toi pour servir de témoignage aux autres, à ceux qui sont autour de toi. L'histoire de Job aujourd'hui nous sert. Nous pouvons comprendre, puisque nous, nous avons du recul par rapport à l'histoire. Nous avons le décor. Vous savez, c'est comme un film. Hein? Dans un film, il y a des intrigues, il y a du suspense. On ne sait pas toujours ce qui va arriver, même si on peut l'imaginer, même si on peut... anticiper. Et là, l'histoire de Job, nous, on sait ce qui se passe. Mais Job, lui, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne comprend pas pourquoi ça lui arrive, tout ce qui arrive. Mais Job, malgré tout, reste attaché à Dieu. Et sa femme lui dit, ben maudis Dieu. Abandonne Dieu. Bien-aimé, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est aisé. Mais je dis, comme il est écrit dans Romains 8, 28, que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses marchent ensemble. Toutes choses évoluent ensemble pour notre bien. C'est ça, bien-aimé. La perfection de l'action de Dieu. Les voies de Dieu sont parfaites. On ne le voit toujours pas, mais elles sont parfaites. Elles sont parfaites. Alors acceptons, bien-aimés, même si on voit des gens autour de nous, parfois un proche, qui souffre, qui est dans une situation difficile. Tournons-nous vers Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu vas apprendre à la personne au travers de cette situation-là? Peut-être que Dieu veut passer par là pour la conversion de cette personne-là. Dieu qui connaît bien le cœur de l'homme, il sait là où il doit frapper pour que la personne cède. Il sait. Et souvent, nous-mêmes qui prions pour la conversion, quand le malheur arrive, nous sommes les mêmes encore à prier pour que Dieu enlève le malheur, mais nous n'avons pas compris le fonctionnement de Dieu. Qu'est-ce qui importe à Dieu? Il est écrit dans Matthieu 16, 26, que servirait-il à l'homme de gagner le monde et de perdre son âme? La volonté de Dieu, c'est pas la terre. La volonté de Dieu, c'est le ciel. C'est sauver l'homme. C'est cela. Alors, ne cherchons pas, bien-aimés, à nous rebeller vis-à-vis de Dieu. Tournons-nous vers Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux faire? Faisons comme Anne. Anne a prié pendant longtemps pour avoir un enfant. Tous les jours, on nous dit, elle se rendait au temple. Tous les jours. Jusqu'au point où le sacrificateur Élie se moque d'elle. Il dit, mais regarde, fais passer ton vin. Anne dit, non, mon Seigneur. Je ne suis pas ivre. C'est le chagrin, c'est la peine de mon cœur que j'exprime à Dieu, tout simplement. Jusqu'au jour où Anne fait la prière qui touche Dieu. Bien-aimé, les voies de Dieu sont parfaites. Pourtant, lorsqu'on lit avant, qu'est-ce qu'on nous dit d'Anne? Qui l'avait rendue stérile? Elle était malade ou la nature ou non? C'est Dieu qui l'avait rendue stérile. C'est Dieu lui-même qui a fait les choses. Bien-aimé, les voies de Dieu sont parfaites. Donc Dieu rend Anne stérile parce qu'il veut passer par Anne pour donner un enfant qui sera le roi, qui sera, qui sera le juge d'Israël, le prophète d'Israël. Quelle responsabilité! Mais pour passer par ce chemin-là, il aurait fallu au préalable travailler le cœur d'Anne. Parce qu'elle, elle voulait un enfant pour montrer à sa rivale, Pénina, qu'elle était capable d'enfanter, vous savez. Dans le contexte du Moyen-Orient ou de l'Afrique, une femme qui n'a pas d'enfant, ben c'est une femme qui est sujet à moquerie, qui est la risée de tout le monde, qui est déconsidérée, mais littéralement. Et c'était le cas de Anne. Quelle souffrance! Alors elle priait, « Seigneur, donne-moi un enfant, regarde ma rivale, mais Seigneur !» Mais un jour elle dit, « Seigneur, donne-moi un enfant. » Et il te sera consacré. Dieu dit, voilà, c'est ce que j'attendais. Les voies de Dieu sont parfaites. Et là, Dieu donne un enfant à Anne. Et Anne va voir son mari pour dire, écoute, quand l'enfant sera sevré, je le déposerai au temple. Le mari dit, écoute, fais comme tu as décidé dans ton cœur. C'est cela, bien-aimé. Les voies de Dieu sont parfaites. C'est ça mon exhortation aujourd'hui. Alors, le but, c'est que nous allons le voir. Le but, c'est que nous n'ayons plus peur. Quand quelqu'un vient te voir pour te dire, mais toi, chrétien, qu'est-ce que tu as à dire au coronavirus? Qu'est-ce que tu as à dire? Dis, Dieu est au contrôle. Ses voies sont parfaites. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait. Vous savez, quand un dessinateur fait sa maquette, son dessin, toi qui es un novice, quand tu viens, tu dis, oh là là, mais quel désordre sur la feuille. Tu ne comprends pas ce qu'il fait. Mais lui, qui fait son dessin, il sait ce qu'il est en train de faire. Parfois, il effleure juste son crayon. Hein. Mais dans ce qu'il fait là, viens dans une heure, viens dans deux heures. Quand il te dira le travail est fini, tu diras, ah ouais, d'accord, je comprends. Mais oui, c'est ça le travail de Dieu. Parfois, on a l'impression que c'est un brouillon, on ne comprend pas. On se dit, mais pourquoi? Mais Dieu, lui, sait très bien ce qu'il fait. Il sait. Il sait ce qu'il fait. Alors intégrons cela. Ne nous rebellons pas. Je me rappelle une fois, je témoigne souvent de cela parce que moi c'est quelque chose qui m'a marqué quand on a fait un concert, c'était à l'hôpital psychiatrique de Saint-Étienne-de-Rouvray. Et on a prié longtemps pour ce concert-là. Et le jour du concert arrive, donc on était bien à l'extérieur, il y avait un peu de soleil, mais il y a une pluie qui s'est abattue en plein concert. Et là, les bien-aimés me regardent, ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou on continue? Bien-aimés. Je dis, on continue. La pluie continue et à un moment donné, je vois que le synthé qu'on utilise là commence à prendre l'eau. Et effectivement, il est tombé en panne après cela. On dit, bon, on arrête, on va brancher le matériel à l'intérieur et on va continuer le concert de l'intérieur. Alors, il y a une sœur qui vient me voir pour me dire, mais pourquoi Dieu a permis ça? Là, la sœur était abattue. Et je peux comprendre parce que moi aussi, vous savez, quand vous avez prié longtemps pour quelque chose, la situation, l'occasion arrive, on se dit, wow, alléluia, Dieu a exaucé. Mais ce jour-là, une forte pluie, ce qui fait qu'on a interrompu le concert, la sono devait tout débrancher, rebrancher à l'intérieur, les choses avaient pris l'eau, tout ça, des conditions vraiment rudimentaires, difficiles. Mais on ne s'attend pas à ça, bien-aimé. Quand tu as prié longtemps pour quelque chose et que l'occasion arrive, et que finalement, humainement, tu as le sentiment que c'est un échec. Humainement, je dis bien. Ben, ça rend triste. La sœur vient voir pour me dire, mais pourquoi Dieu a permis ça? Pourtant, pourtant on a prié pour qu'il y ait du soleil, que Dieu arrête la pluie. J'ai dit oui, mais tu sais, Dieu n'agit pas que d'une façon. Oui, Dieu aurait pu arrêter la pluie. Mais il a voulu que les choses se passent ainsi. Pour que la gloire ne lui revienne qu'à lui seul. Bien-aimé, c'est cela. Humainement, on aurait voulu que les choses soient parfaites du début jusqu'à la fin, qu'il y ait du soleil, que les gens soient contents, qu'on chante bien, qu'on termine la liste, qu'on fasse ceci, qu'on fasse... Mais ça, c'est humainement. Mais qui veut toucher les hommes, les âmes, plus que nous? C'est Dieu. Alors, à un moment donné, acceptons son fonctionnement. Moi, j'ai dit à cette bien-aimée, j'ai dit, écoute, tu sais, il y a parfois des choses qui peuvent être comme des défaites humaines pour nous. Mais c'est dans ces défaites-là que Dieu se glorifie. C'est ce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 12, où l'apôtre Paul dit, c'est dans ma faiblesse que je suis fort, que Dieu manifeste sa force. Je lui ai dit, Jésus à la croix, quelle honte! On l'a lu, hein, on a lu le Luc 23. Les gens se moquaient de lui, vous imaginez? Toi, chrétien, on se moque de toi comme ça. Étienne, lapidé un homme. On dit Étienne était un homme intègre. Voilà qu'Étienne est lapidé. Tué à jet de pierre, bien aimé, c'est cruel. Je pense que les chrétiens qui se cachaient ce jour-là, ils veulent se dire, mais Dieu, mais tu nous as laissé tomber. Mais quelle honte, parce que nous, nos pensées à nous, ça aurait été... Que Étienne se relève, qu'il crie, que tout le monde tombe, qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit. Mais bien aimé, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin de nous pour agir. Parce que c'est dans cet échec-là, apparent, la mort d'Étienne, qu'on a vu la naissance de Saul, de Tarse. L'apôtre Paul, on nous dit dans Actes chapitre 9, il respirait encore la haine, le meurtre d'Étienne. Mais Dieu se révèle à lui. Il lui dit, pourquoi tu résistes? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de méchanceté? Et c'est ça. Et j'ai dit à la sœur, j'ai dit, Jésus à la croix, c'était une honte. Marie et les disciples, on se rappelle que Pierre s'est caché. On a dit, tu étais avec lui. Il a dit qui? Moi? Mais je ne sais même pas de quoi vous parlez. Jésus, moi? Oui, tu étais avec lui. De voir votre maître à la croix, c'est une honte. Mais que nous dit la Bible? L'apôtre Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour les intelligents de ce monde. C'est pour ça qu'on a lu, hein, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Parce que c'est par la croix, l'humiliation par la croix, que nous sommes sauvés. Et le brigand, le deuxième brigand, a expérimenté cela à la croix, bien-aimé. C'est cela. C'est vrai que Dieu peut agir puissamment, il va le faire, il peut le faire. Mais il y aura des moments où on va subir des échecs humains. Pour qu'on se concentre à l'essentiel. J'ai dit à la sœur, donc je donne l'exemple de Jésus à la croix, je lui ai dit, écoute, nous, on est venus glorifier le Seigneur. Première chose, adorer Dieu. Et deuxième chose, on est venu annoncer sa parole. Je lui pose la question, l'objectif a-t-il été atteint ou pas? Elle me dit, oui. Je dis, bah ouais, voilà, c'est ça. Par moment, il faut se contenter de cela. On peut avoir plus. Voir des miracles, voir des paralytiques marcher, voir des gens qui pleurent, qui sont touchés. Gloire à Dieu. Mais par moment, Dieu va nous limiter à l'essentiel. Annonce la parole et contente-toi de cela. C'est tout. Objectif atteint ou pas. Vous savez, quand un militaire ou un policier, quand il va en mission, il fait un compte-rendu de sa mission. Objectif atteint ou pas. Oui, objectif atteint, voilà le résultat. Objectif pas atteint, parce que ceci, parce que cela, parce que... Voilà, il fait un compte-rendu. Et nous aussi, eh ben, acceptons cela. Et c'est ça, pour nous faire comprendre que les voies de Dieu sont parfaites. Dieu sait comment il fait les choses. Même si on peut vivre, tu pries pour quelqu'un qui ne guérit pas. On va dire, ah, voilà maintenant. On pensait qu'il avait la puissance, mais la puissance, c'est la puissance de qui? C'est la puissance de Dieu. Jésus, il est arrivé qu'on lui dise, fais des miracles, fais des miracles. Il a dit, non, je n'en ferai pas, je ne ferai pas de miracles. Parce que ce n'est pas ça qui change les cœurs. Parce que ce n'est pas ça. Dieu, lui, sait comment s'employer. On se rappelle dans Jean 2, verset 23, 22, 23, 24, où Jésus dit qu'il y avait une foule qui a cru en lui, mais Jésus ne se fiait pas en cette foule parce qu'il savait qu'il venait pour manger, pour boire, pour se rassasier, c'est tout, se divertir. C'est tout. Mais Dieu, lui, sait par où il doit passer pour toucher quelqu'un. Lui, il sait. Alors, quand on voit un chrétien tomber malade, vous savez, le fait de vouloir toujours la force et la puissance, c'est là qu'on en arrive à des mensonges où on dit qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. C'est écrit où? C'est écrit où? Un chrétien peut tomber malade. Un chrétien peut mourir aussi de maladie. Mais la différence, c'est que cette mort-là ouvre la porte à l'éternité, à la présence de Dieu. Mais quelle joie! Quelle joie! Et dans tout ça, qu'est-ce que nous disons? À Dieu seul la gloire. C'est cela, bien-aimé. Les voies de Dieu, bien-aimé, sont parfaites. Ne nous rebellons pas. Ne devenons pas rebelles parce qu'on n'a pas compris. Parce qu'on n'a pas saisi les choses. Parce qu'on n'a pas réponse à donner, non, il y aura des moments où on n'aura pas de réponse. Où on dira, bon, Dieu seul sait. C'est ça. Isaac demande à son père, mais il est où l'animal pour le sacrifice? Il y a le bois, il y a le feu, il y a tout. Il dit, bah, Dieu pourvoira. Voilà, il y a des moments où on passe pour quelqu'un de, voilà, de, excusez-moi le terme, de bête, parce qu'on n'a pas de réponse. Parce que bien évidemment, quand tu réponds comme ça, les gens vont se moquer de toi, ils vont dire, oh là là, en plus... Tu crois, mais en plus, tu ne sais même pas. Mais c'est ça, bien-aimé. C'est ça, être chrétien. C'est ce que Jésus dit, le vent souffle où il veut. On entend le bruit. On ne sait pas d'où il vient, d'où il va, mais on sait qu'il souffle et on le suit, bien-aimé, c'est ça. J'ai beaucoup d'exemples pour nous montrer cela, que les voies de Dieu sont parfaites. Un homme comme Joseph, nous qui lisons, nous connaissons les promesses de Joseph. Nous connaissons même la fin de l'histoire de Joseph, mais est-ce que Joseph, lui, a lu son histoire pour voir que, bon, je vais être vendu, je vais être séparé de ma famille, de mon père, je vais être à l'étranger où je serai esclave, ensuite, il va se passer ceci, je serai élevé, et ensuite, je serai en prison, et ensuite, je vais faire des songes, et ensuite, 3 ans après, je serai libéré. Premier ministre, est-ce qu'il savait tout ça? Mais non, il ne le savait pas. Nous, on a l'histoire. Nous, on lit, on comprend, on se dit, ah, vraiment, il a été fidèle. Mais on n'est pas à la place de Joseph à ce moment-là. Mais Joseph a tenu parce qu'il a fait confiance en Dieu, tout simplement. C'est ça, bien-aimé. Il savait que la voie de Dieu était parfaite. Et Dieu a été bon parce que Dieu lui a donné des songes à l'avance. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on a les prophéties, c'est pas parce qu'on a la parole de Dieu, que quand le malheur arrive, qu'on se souvienne toujours de cette parole-là, bien-aimé. Soyons honnêtes, soyons sincères. Soyons honnêtes. Parfois, tu sais que Dieu t'attend à tel niveau. Tu sais qu'il y a des prophéties. Mais je peux te dire que quand tu vis la souffrance, les prophéties, là, tu te dis, ah, ça attendra après. Hein. Quand tu es dans un avion avec des turbulences, je ne sais pas combien, 15 000 pieds, je peux te dire que tu as juste une seule envie, c'est de descendre de l'avion vivant. Tu ne penses plus, non, tu ne penses plus au reste. Hein. Tu ne te projettes plus. Et imaginez que cette situation s'allonge, dure dans le temps. Joseph a souffert pendant longtemps dans le temps. Au point d'être accusé, même injustement, par la femme de son chef. Mais on nous dit dans toutes ces choses, Joseph est resté intègre. Et la Bible dit que Dieu était avec lui partout. Tout ce qui touchait, partout où il partait, Dieu était avec lui. Jusqu'au jour où, dans Genèse 45, il dit à ses frères, « Le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a transformé en bien. » Les voies de Dieu, bien-aimés, sont parfaites. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Dieu agit, Dieu n'agit pas seulement par rapport à nous. Dieu agit par rapport aux autres aussi. Il donne un enseignement aux autres. C'est ça l'action de Dieu. Quand Jésus est mort à la croix, Jésus est mort à la croix, oui, parce qu'il a obéi à son Père. Et on nous dit dans Philippiens 2 qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Mais sa mort à la croix ne s'est pas limitée à lui. Sa mort à la croix a une conséquence sur notre salut à tous les humains. Joseph, sa souffrance, a servi à tout le monde, tout le peuple d'Israël, à sa famille, à tout le monde. L'histoire du roi que j'ai raconté qui s'est fait arracher un doigt, ça a servi à lui, mais ça a servi aussi à son esclave qui savait que Dieu était bon et fidèle. Quels exemples on peut prendre? Étienne, sa mort a servi de témoignage pour les bien-aimés qui ont persévéré jusqu'à la conversion de Paul. Et je peux prendre beaucoup d'exemples comme ça pour nous montrer que les voies de Dieu, bien-aimés, sont parfaites. Nous ne comprenons pas toujours les choses. Nous ne saisissons pas toujours les choses. Et même s'il arrive, bien-aimés, de penser que c'est perdu pour perdu, lisons ce que nous dit la Bible, nous allons finir. Nous lisons dans Jean au chapitre 11. Jean 11. À partir du verset 17. Jean 11, verset 17. C'est la résurrection de Lazare. Jésus, Jean 11, 17 à 27. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. Je sais. » Lui répondit Marthe, « qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Voilà, bien-aimés, Marthe et Marie envoient un message à Jésus pour dire, « Mais regarde ton ami que tu aimes. Lazare est malade, il est mourant. Dépêche-toi. » Et on nous dit quoi? Jésus dit aux disciples, que je me réjouis de cette situation. Je me réjouis de ne pas être là à présent. Ensuite, il dit, bon, allons voir Lazare, il dort. Les disciples disent, bon, comme il dort, bon, la situation est sous contrôle, c'est facile, il suffit de le réveiller. Jésus lui dit, non, il est mort. Comprenez maintenant que les choses sont plus compliquées à votre intelligence humaine. Il est mort, mais Jésus lui savait ce qu'il allait faire. Alors il rencontre Marthe. Marthe lui dit, oh mais Seigneur, mais si tu avais été là, bien aimé, c'est cela. On se dit, mais si seulement on avait fait ceci, voilà, cette situation ne serait pas arrivée. Mais si Dieu avait fait comme ça, voilà, les choses auraient été différentes. Bien aimé, comme dans le monde, ils disent, avec les si, on peut refaire le monde. Notre Dieu n'est pas un Dieu de si, hypothétique, non. C'est un Dieu vivant, c'est l'éternel. Jésus dit à Marthe, il dit, oh Marthe, mais moi je suis la résurrection, est-ce que tu le crois? Elle dit, oui, je sais Seigneur, mais ça arrivera à la résurrection. Plus tard, il dit, non, je suis la résurrection. Et c'est ce qu'il dira aussi à Marie après, dans Jean, toujours 11, au verset 40. Ne t'ai-je pas dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu? C'est cela, bien-aimé. Même si tu penses que c'est perdu, sache que rien n'est perdu avec Dieu. Parce que il y a la résurrection. Dieu peut produire la résurrection, bien-aimé. Et quand on réalise ça, on comprend finalement que tout est parfait avec Dieu. Vous savez, il y a l'histoire de Ruth Gottlieb. C'est une histoire, une juive dont on a écoutez le témoignage, il y a beaucoup à dire. Mais c'est quelqu'un qui a vécu des drames mais terribles. Dans le camp de concentration d'Auschwitz, elle raconte les conditions, elle dit qu'elles ont été déportées dans des trains à bestiaux. Debout parce qu'ils étaient tellement entassés pendant plusieurs jours dans le froid. Et vous savez, les trains à bestiaux, c'est juste des petites ouvertures avec des barreaux pour que les animaux puissent respirer. Et ils étaient là-dedans. Et elle dit qu'il y a des gens qui mouraient parce qu'ils étaient debout pendant plusieurs jours. Dans le froid, ils ne mangeaient pas. Quel drame, bien-aimé, quand on écoute l'histoire de cette personne-là. Elle a perdu 3 maris. Le premier fusillé par les Allemands. Le deuxième, mort d'une embolie pulmonaire. Elle venait d'accoucher. Son mari va chercher un fauteuil pour qu'elle puisse allaiter son bébé. Elle dit que c'était un homme fort, grand, musclé. Le monsieur va chercher le fauteuil. Il revient avec le fauteuil. Il monte les étages. Il s'assoit. Il s'endort et il est mort. Embolie pulmonaire. Elle a un troisième mari. Entre-temps, sa fille, retrouvée morte dans la baignoire, bien-aimée, c'est une histoire, quand vous écoutez l'histoire, vous vous dites, mais comment quelqu'un comme ça peut croire en Dieu? Vous savez, il y a des histoires, quand tu écoutes, tu vois la personne se plaindre, tu te dis, bon, la personne a quand même raison. Mais bien-aimée, c'est faux, parce que la preuve, c'est que Ruth a accepté Jésus-Christ. Et elle dit, je regrette même de ne pas l'avoir fait depuis longtemps. Elle a dû se convertir vers la fin de sa vie. Mais vous voyez, avec une vie comme ça, il y a beaucoup de choses à dire sur son histoire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà quelqu'un comme ça, avec malgré même, je dirais, toutes les souffrances qu'elle a subies, vécues, marquées dans sa chair. Elle dit, pour échapper à la chambre à gaz, elle dit, une fois, elle s'est cachée dans un placard. Elle dit, elle était tellement frêle, tellement mince, tellement maladive. Sachant qu'elle a perdu toute sa famille. Alors, elle dit qu'elle est partie une fois se cacher dans un placard. Et les Allemands sont venus, ils vérifiaient, parce que quand ils les amenaient, donc chaque matin, ils faisaient l'appel. Et ça durait des heures. Déjà, il faut rester debout. Elle dit qu'elle tombait tout le temps évanouie parce qu'elle n'avait pas de force pour tenir. Et ce sont les gens qui n'avaient pas de force qu'ils emmenaient à la chambre. Et elle dit, eux, ils étaient là à regarder juste pour voir la fumée. Et quand ils voyaient la fumée, ils sentaient l'odeur. Ils savaient que c'était leurs amis, leurs frères ou sœurs qui étaient dans la chambre crématoire ou je ne sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, qui brûlait. Bien-aimé, vous voyez un peu la cruauté de ce que cette personne a vécu. Mais elle dit, j'ai rencontré Jésus. Et je suis dans la joie. Bien-aimé, il n'y a aucune excuse. Tout ce que Dieu fait est parfait. Quand je vois le témoignage d'une personne comme ça, je me dis qu'on n'a pas d'excuse. Tu n'as pas l'excuse du coronavirus pour dire, mais pourquoi ceci? Oui, le coronavirus est là pour nous rappeler que les choses peuvent changer d'un instant à l'autre. Voilà le pays, la France, qui se glorifiait de dire que nous sommes les premiers en matière sociale. Ah ben oui, mais bien sûr, premiers en matière sociale. On a vu des pays comme la Corée, le Singapour, qui sont devant la France, qui ont su gérer la crise. Même si, bien évidemment, il y a d'autres enjeux sataniques derrière. Mais c'est là pour nous rappeler que, finalement, la sécurité est en Dieu seul. Vous vous rendez compte? Tu es malade, tu as des symptômes, on te dit reste chez toi. En gros, quand ça va s'empirer, eh ben, tu viendras aux urgences. Mais généralement, quand ça s'empire, bah, généralement, c'est compliqué, c'est difficile. Alors, dans ces conditions, la bien-aimée, tu vas te retourner vers qui? Tu appelles le médecin te dit, non, moi, je ne reçois pas. Comme quelqu'un m'a dit, il appelle son médecin lui dit, non, non, moi, je ne reçois pas. Le monsieur dit, oui, non, non, je viens à ton cabinet tout de suite, là. Je viens chercher l'ordonnance. Il dit, non, 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 viens pas. Mais en même temps, le médecin lui dit, par contre, faut que tu m'envoies mon chèque de la consultation. Bien-aimé, vous voyez un peu. Le monsieur veut son chèque de consultation. Parce que tu l'as appelé pour le dire, bah, docteur, voilà, j'ai ceci, j'ai cela. Il ne veut pas que tu viennes chercher l'ordonnance, mais par contre, lui, il veut son chèque. Alors, si tu avais espoir en ton médecin, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Et c'est ce que nous avons lu, hein, 2 Samuel 22. Nous avons lu que les voies de Dieu sont parfaites, sa parole est éprouvée. Elle est quoi? Un bouclier pour ceux qui s'appuient en lui. Bien-aimé, c'est ça. Les voies de Dieu sont parfaites. Acceptons cela. Réalisons que même si on pense que la situation est perdue, sachant qu'il y a toujours de l'espoir parce que Jésus est la résurrection et la vie. C'est ce que Jésus dit à Marthe et Marie. Il dit, c'est pas perdu. Jaïrus était découragé. Jésus lui dit, écoute, ne crains rien. Crois seulement, ta fille sera sauvée. On lui arrête de déranger le maître, c'est fini. Jésus lui dit, oui, c'est fini. Mais moi, j'ai le pouvoir d'arrêter le temps. Non seulement d'arrêter le temps, mais de reproduire la vie. C'est ça, bien-aimé. Alors notre appel aujourd'hui, si tu es chrétien, c'est que faire? Première chose, c'est d'accepter la façon de faire de Dieu en ayant foi, bien-aimé, que Dieu est au contrôle de tout. Acceptons la façon de faire de Dieu. Il va arriver des fois que tu sois en position de faiblesse, en position de maladie, où les gens vont dire, ah, regarde-toi, tu es chrétien, mais regarde ce que tu vis. Bah, à Jésus-Christ soit la gloire, que Dieu soit béni. Paul dit, l'apôtre Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus que nous prêchons. C'est l'évangile de Christ que nous prêchons. Nous ne prêchons pas notre santé, notre force, notre gloire, non. Il viendra des temps où on connaîtra des échecs humains, mais ces échecs humains servent à la gloire de Dieu seul. Et que faire encore? Accepter, comme j'ai dit tout à l'heure, de s'humilier, le fait qu'on n'ait parfois pas de réponse à donner. Viendra des temps, vous savez, aujourd'hui, les chrétiens veulent répondre à tout. On veut donner une explication à tout. Vous savez, c'est un peu comme les scientifiques qui veulent expliquer tout. Mais il viendra des moments où Dieu va confondre ces scientifiques-là, où le médecin ne sait pas quoi dire. Il est confondu. Pourtant, il a fait des études. Mais il ne sait pas comment expliquer les choses. Parce que c'est inexplicable. Parce que Dieu seul a l'explication. Et nous aussi, bien-aimés, acceptons parfois de passer des temps où on dit « Oui, mais tu es chrétien, mais vous êtes chrétien, mais regarde ceci, il y a cela, c'est pas normal, vous avez péché, vous avez... » Mais ne cherche pas à répondre forcément, non. Dis « Ah oui, oui, bon, que Dieu, comme David a dit devant Shimei, il a dit « Oui, oui, Dieu verra notre affliction et il aura pitié de nous. » Voilà la prière à faire, bien-aimé. C'est ça. Croyons, bien-aimé, que les voies de Dieu sont parfaites. Dieu est au contrôle de tout. Dieu dirige tout. Ayons foi en lui. Humilions-nous plutôt que de faire le rebelle, plutôt que de chercher à nous plaindre pour dire, mais si je ne comprends pas, oui, si tu ne comprends pas, va à Dieu, humilie-toi, prie, dis, Seigneur, que veux-tu m'apprendre? Seigneur, que veux-tu m'enseigner? Seigneur, quelle direction veux-tu que je prenne? Plutôt que de commencer à accuser. Humilions-nous, bien-aimés. Et si tu ne crois pas en Jésus, sache que le Seigneur frappe à ta porte. Si Ruth Gottlieb a pu se convertir malgré tous les drames qu'elle a vécus, personnellement, dans sa chair, alors toi, ne cherche pas à prendre tout ce qu'il y a autour de toi pour dire que Dieu est auteur de cela, c'est faux. Dieu veut nous sauver. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton esprit, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ta grâce, Seigneur. Et Seigneur, nous te louons, Seigneur, parce que tu es bon. Aide-nous à saisir cela. Seigneur, comme Ruth, qui a tout perdu, Seigneur, qui a perdu son mari, qui a perdu son beau-père, qui a perdu son beau-frère dans son pays chez les Moabites, mais qui a décidé de te suivre, Seigneur, en étant attaché à Naomi, Seigneur. Seigneur, nous ne comprenons pas tout, Seigneur, mais nous savons que toute chose concourt pour notre bien. Nous bénissons ton nom pour ta parole aujourd'hui et nous te glorifions pour ce que tu fais. Aide-nous à réaliser, Seigneur, que tes voies à toi sont parfaites, Seigneur. Tes voies ne sont pas seulement bonnes, elles sont parfaites. Il n'y a aucune ombre, Seigneur, d'erreur, Seigneur, dans ta façon d'agir. Seigneur, nous prions pour que ce message nous encourage, que nous n'ayons pas peur, Seigneur, de témoigner de toi, Seigneur, de dire que tu sauves, de dire, comme l'esclave, Seigneur, a dit à son maître, Dieu est bon et ne fait pas d'erreur. Même si le maître a eu à se fâcher à plusieurs reprises, Seigneur, un jour, il a eu besoin de cette phrase-là, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides aussi à être comme ce serviteur, à témoigner dans nos familles, dire que tu es bon, que tu ne fais pas d'erreur. Même s'il y a le malheur qui frappe, ce n'est pas une erreur. C'est dans ta construction, c'est dans ton projet, c'est dans ta façon d'agir, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous prions, Seigneur, pour des conversions, Seigneur. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais dans nos vies. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen.